L'Église protestante unie pour sa région Cévennes Languedoc-Roussillon dispose d'un mensuel, le CEP, et chaque mois, nous recevons son rédacteur en chef, Nicolas Boutier. Bonjour Nicolas.
Bonjour Guylaine.
Nicolas, le dossier de ce numéro d'avril 2018 est dédié aux aumôneries. Alors qu'est-ce qu'une aumônerie au fait ?
Bonne question. C'est un système particulier qui a été mis en place par la loi de 1905 et qui permet de détacher du personnel religieux, de toute religion, enfin du moins catholiques, protestants et juifs, les musulmans n'étaient pas encore compris dans la loi de 1905, auprès de différents services tels que armée, hôpitaux, maisons de retraite et éducation nationale, donc dans les collèges et les lycées.
Alors faire un numéro d'aumônerie sur le numéro de Pâques, numéro d'avril, il y a un lien ou est-ce que c'est le fruit du hasard?
Bon, c'est un peu le fruit du hasard.
Ah bon?
Mais en même temps, c'est pas tout à fait le fruit du hasard. On réfléchit les dossiers en fonction des périodes de l'année. Mais en même temps, ça correspond bien au message de Pâques.
Voilà. L'écoute, l'accompagnement, l'amour, voilà. C'est ce que vous titrez d'ailleurs, les aumôneries, écouter, accompagner, aimer.
C'est au fil des articles, en lisant les articles, donc ce sont beaucoup d'aumôniers qui témoignent de leur parcours, de leur vie, de ce qu'ils pratiquent, et c'est vraiment ce qui est ressorti. J'étais assez impressionné, et aimer, ça pourrait être un peu particulier, de se dire, tiens, mais il y a vraiment quelque chose qui se joue entre l'aumônier et les personnes qu'il va rencontrer. Il y a vraiment un lien qui se crée. Et des personnes qui sont très diverses, ça va de personnes handicapées à des militaires qui partent en opération à l'autre bout du monde, en guerre. Bon, y a moins de choses sur les étudiants, mais dans les hôpitaux aussi, toutes ces personnes qui sont souvent en souffrance. On va rarement demander une visite de l'aumônier si on est opéré d'appendicite. Donc c'est quand il y a des moments plus difficiles de la vie, on est content qu'un aumônier vienne nous rendre visite. Et c'est vrai que c'était assez important.
Oui. En effet, vous déclinez tous ces sujets d'aumônerie dans les différents lieux. Et pour l'hôpital que vous évoquez là maintenant, c'est André Piazza qui est aumônier à Rouen, qui témoigne que le travail de l'aumônier, c'est l'écoute et l'accompagnement de la personne souffrante jusqu'à la prière. Il y a cette dimension-là qui va jusqu'à cette dimension spirituelle.
C'est très fort. En plus, la démarche est particulière. Un aumônier n'a pas le droit d'aller rencontrer le patient. C'est le patient qui demande à rencontrer l'aumônier. Donc, il y a déjà une démarche qui est faite par ce patient. La personne qui demande, parce que c'est pas forcément... Là, on est dans les hôpitaux, mais pas toujours. Et donc, c'est vrai que ça finit toujours par une prière. Mmh. Souvent, ces rencontres finissent par une prière à la demande du patient ou sur proposition de l'aumônier. Et je pense que c'est des moments forts qui doivent permettre à la personne de se recentrer, puis peut-être d'évacuer certaines choses qu'elle a en elle.
Vous évoquez aussi l'aumônerie aux armées, et là nous avons le témoignage de la pasteure Françoise Vinard, qui est pasteur aumônier militaire. Alors ce que j'ignorais, c'est que ces aumôniers sont à la fois sur le terrain d'opération militaire, vous le disiez nous tout à l'heure Nicolas, mais aussi dans les hôpitaux militaires, c'est eux qui interviennent dans les hôpitaux militaire.
Oui, alors je dois avouer que j'ai découvert ça aussi. Pour avouer, j'ai découvert presque tout le dossier. On connaît les aumôneries protestantes, mais elles sont un petit peu, j'allais dire, éloignées de l'Église. C'est pas tout à fait vrai, mais quand on va au culte dimanche, on parle pas toujours des aumôneries. Et donc là, on a pu rentrer dans le sujet. Et c'est vrai que c'était intéressant de découvrir ça. Et pour ce qui est du témoignage de Françoise Vinard, c'est intéressant de voir les liens qu'elle fait. Alors, elle ne sépare pas les deux. Elle travaille comme aumônier dans les hôpitaux militaires. Elle part en opération extérieure. Mais pour elle, elle crée un lien entre ces deux lieux pour les militaires qu'elle rencontre. Donc c'est vrai que c'est intéressant de voir ce témoignage et ces liens que l'aumônier crée entre les différents lieux où les militaires sont.
Et puis, l'aumônerie en prison est toujours un espace un peu secret, caché. Ce sont des lieux fermés auxquels on accède encore moins que les hôpitaux et peut-être même qu'un hôpital militaire. Et là, c'est Frédéric Verspeten qui est aumônier de prison dans le nord de la France, qui déclare, dès le début de son article, On ne se rend pas en prison pour moraliser les coupables d'infractions, ni pour espérer que par une conversion miraculeuse, les vies changent. L'aumônier, nous dit-il, vient rendre visite à des frères et sœurs en humanité. Alors là aussi, peut-être ça peut paraître étrange d'aller vers ces gens et de pas les considérer juste en tant qu'hommes et femmes et ne pas prendre, se dire, bah tiens, ils ont quand même tué des gens, ils ont peut-être même brutalisé d'autres, voilà, ils ont fait des meurtres. Donc c'est peut-être un travail encore plus, pour l'aumônier, encore plus difficile ou un pas de plus que les aumôniers.
Alors c'est vrai qu'entre le témoignage Frédéric Verspeten et puis les autres aumôniers de prison que j'ai pu rencontrer, ils ne veulent pas savoir d'ailleurs la raison pour laquelle le prisonnier est en prison. Ils peuvent le savoir, mais ils ne veulent pas. Parfois ils l'apprennent parce que le prisonnier leur dit, ça c'est autre chose. Parce qu'ils vont rencontrer en effet une personne, et pas ils vont pas rencontrer un coupable, mais une personne humaine avec qui ils vont partager et échanger. Et j'ai l'impression que c'est l'essentiel de leur travail, en fait. Mmh. Aller rencontrer des hommes et des femmes, mais pas un coupable, quelqu'un qui est en prison, soit, donc il est là pour régler ses dettes avec la société, mais pas et surtout pas le moraliser. C'est-à-dire que le but, c'est de le faire avancer, de le faire espérer, et pas de lui dire, tout ce que tu as fait, ça va pas, il faut que tu te convertisses et que tu reviennes à une vraie vie chrétienne. Ils sont pas du tout dans ce système-là. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y a eu, je pense, les témoignages, si on demandait à ces aumôniers de prison, quels les témoignages les plus forts sur, on ne peut pas parler de conversion, mais de gens qui tout d'un coup prennent conscience d'eux-mêmes, je pense. Ils se redécouvrent et il y a des choses très très fortes qui se passent. Mmh. C'est vraiment assez impressionnant.
Est-ce que ce sont les prisonniers qui là aussi demandent à la visite de l'aumônier ?
Toujours. Un aumônier n'a pas le droit de rentrer dans une cellule sans y être invité. Donc il a toutes les clés des cellules, mais il faut que le prisonnier l'invite à le rencontrer. Ce qui se passe, c'est que pour un prisonnier qui demande une visite, souvent c'est 4 prisonniers qui sont impactés puisqu'ils ne sont pas seuls en cellule, surtout dans les maisons d'arrêt.
Bingo là, un petit pibarcat sur le chemin.
Et donc parfois, soit le co-détenu ne s'intéresse pas du tout à ce qui est dit par l'aumônier, mais certains s'y intéressent et découvrent des choses comme ça et viennent dans les moments de culte qui sont célébrés au sein des prisons.
Et pour terminer ce dossier, Corinna Thomas intervient sur la question, elle est elle-même aumônier au CHU de Montpellier, intervient sur la question de l'interreligieux. Là encore, dans les hôpitaux, comment est-ce que ces aumôniers s'organisent parce qu'il y a des personnes qui sont de confessions différentes? Et est-ce qu'il y a pour chacune de ces religions des aumôniers adaptés?
Alors en fait, oui, c'est vrai qu'il y a des aumôniers pour toutes les religions représentées. C'est-à-dire que, alors il n'y a pas forcément d'aumônier salarié, mais il peut, un musulman a le droit d'avoir la visite d'un aumônier, un juif, un protestant, un catholique, a le droit d'avoir la visite de l'aumônier de la religion qu'il pratique ou de la confession qu'il vit. Et ce qui est intéressant dans l'article de Corinna Combé-Galland, c'est que... Corinna Thomas, pardon. Pourquoi je change de nom tout d'un coup.
Vous en connaissez du Corinna?
Au moins deux.
Au moins deux.
De Corinna Thomas. C'est qu'à l'hôpital de Montpellier, il n'y a qu'une seule salle pour célébrer les cultes. Mmh. Et c'est posé la question de comment chacune des religions peut trouver cette place. Alors pendant un temps, il y avait donc tous les symboles religieux sur un mur et on faisait glisser un panneau pour dévoiler ou cacher les autres. On changeait de décor. Entre cour et jardin.
C'est ça.
Et finalement, les choses ont évolué parce qu'il y a eu, apparemment, il y a dû avoir, elle reste très soft dans son article, mais on sent qu'il y a dû avoir des tiraillements, des combats pour ce panneau. On le tire dans un sens, on le tire dans l'autre. Et finalement, ils ont décidé que cette salle serait vraiment un lieu interreligieux où chaque religion ou confession aurait ses symboles et que chacun se dirigerait vers le symbole en profitant des autres autour.
C'est ça, enfin, c'est formidable.
Et donc un vrai phénomène interreligieux.
Ah ouais.
Sauf que les choses n'ont pas évolué, il y a des paravents qui sont apparus pour séparer un peu les endroits parce que c'est pas si facile que ça de partager encore. Mais bon, elle reste très optimiste par rapport au dialogue qui est en train de se jouer et de dire il y a des choses à faire, il y a des choses à vivre et à suivre.
Ouais, très intéressant. Eh bien, Je vous propose, Nicolas, de faire une petite pause musicale. Hein, le temps
avec
de réfléchir
plaisir.
Sur la suite de numéro d'avril du CEP.
Très bien.
Vous écoutez le CEP sur le réseau FM Plus 91 FM à Montpellier, 103.1 à Nîmes. Une émission animée par Guylaine Dubois et Nicolas Boutier.
Avec Nicolas Boutier sur FM+, Nicolas Boutier est le rédacteur en chef du journal protestant pour la région Cévennes, Languedoc-Roussillon, le CEP. Alors, après ce dossier sur les aumôneries, écouter, accompagner, aimer, comme vous le titrez si bien sur ce numéro d'avril, dans nos pages régionales, vous faites mention d'un culte autrement. Alors, à quoi ça peut ressembler un culte autrement ? Vous allez en avoir plusieurs comme ça
Il y en a plein.
Il y en a plein.
Il y en a plein dans la région Cévennes-Languedoc-Roussillon.
Très imaginative, la région.
Tout à fait. C'est, alors, pour donner les gros exemples, il y a eu un culte rock'n'roll. Il y a
avec Éric Gallia.
Les cultes apéro de Christophe Cousinier. Et là, alors c'est pas nouveau, hein, ce culte existe déjà, mais il a été, je pense, présenté autrement. C'est un culte tête de veau. Alors comme ça, c'est vrai que ça pourrait prêter à sourire, mais ce qui est intéressant, c'est que le culte se passe autour de la table. Et le repas est servi en même temps que le culte se déroule.
Alors on n'est pas du tout dans le temple, on est dans l'arrière-cuisine, dans l'arrière
salle. On est enfin, dans une salle, voilà, dans une salle, et donc il y a ce repas qui est servi. Mais je pense que c'est aussi en rapport avec la scène, il y a cet échange, souvent on vit la scène, on partage le pain et le vin, mais on oublie que la scène se passe pendant un repas et pas sur un moment liturgique spécial. Et donc je trouve intéressant le partage du repas fraternellement en reprenant des textes liturgiques, des prières et des méditations. Apparemment c'est un grand succès et quand on lit l'article, pour être franc, si vous n'êtes pas végétarien ou végan, je vous l'accorde, on a envie d'y aller.
D'accord. Alors, le culte tête de veau, on peut peut-être redire à quel endroit est-ce que ça
se
déroule.
Il se passe au Pont de Montvert, dans l'ensemble entre schiste et granit. C'est le pasteur Fabien Amps qui s'occupe de cet ensemble. Et c'est une fois par an, au mois de... Je ne sais plus, qu'est-ce que j'ai... C'est au mois de mars, un truc, quelque chose comme
c'est
ça.
C'est passé, elle raconte quelque
ouais, voilà,
chose qui s'est passé. Donc voilà, patience pour l'année prochaine. Ou ouais. Alors, on verra peut-être d'autres cultes autrement dans les mois suivants.
Ça marche bien, 110 personnes présentes quand même.
Ouais, comme quoi, la convivialité, c'est ce qui attire.
Il y a quelque chose à faire.
Alors, vous continuez votre série théologique sur les femmes protestantes avec Isabeau de Vincent. Alors, avec Isabeau de Vincent, la bergère de Saout, telle que la rédactrice de l'article nous la présente, nous sommes en 1688 sous le règne de Louis XIV qui a décidé de réunifier son peuple selon sa devise « Une foi, une loi, un roi ». Et comment cela peut-il convenir à des protestants ? Eh ben non.
C'est ça, eh bien non. Les protestants décident de résister et apparaît quelque chose qui, dans l'histoire du protestantisme, a posé problème, pose encore un peu problème, surtout chez des réformés un peu cartésiens peut-être. Il y a l'apparition des prophètes et des prophétesses. Et Isabeau Vincent est une de ces prophétesses. Alors après, il y a peut-être une petite légende dorée qui se crée autour, mais c'est des gens soi-disant qui ne parlent pas le français, qui ne le comprennent pas,
qui sont plutôt une bergère.
Voilà, sachant que les protestants depuis Calvin sont censés pouvoir lire la Bible, donc je me pose toujours la question,
oui.
Moi, est-ce que malgré le fait qu'elle soit bergère, est-ce qu'elle lisait quand même pas bon.
Sûrement elle lisait la Bible.
Et donc elle se met à parler en français, à parler en langue, à communiquer des messages qui viendraient directement de Dieu. Donc il y a un phénomène qui va se passer.
L'apparition.
C'est même pas une apparition, c'est vraiment, elle n'entend pas, elle transmet ce qu'on lui met dans la bouche en fait. Dans un peu un système de transe, c'est ce qui est du moins décrit. Alors il y a plusieurs choses qui ont été dites, c'est très intéressant ce sujet des prophètes. Quand vous descendez de la corniche des Cévennes et que vous arrivez au niveau de la cante d'Hospitalet, que vous voyez ce paysage absolument magnifique qui se déroule devant vous, certains psychologues ont pensé que voilà, un berger très isolé au fond des Cévennes, attiré par ce paysage, pouvait avoir un système de... On ne peut pas parler de dédoublement de personnalité, mais voilà, quelque chose comme ça qui se révèle hors de lui et inconsciemment. Et donc, ça a duré 3-4 ans dans les Cévennes. Enfin, ça finit avec les gardes des Camisards, les derniers prophètes. Ça a été violemment réprimé, bien sûr, par l'État, mais aussi par les protestants. Puisqu'il faut savoir qu'à ce moment-là, ce sont beaucoup de femmes, il y a eu des hommes, mais ce sont beaucoup de femmes qui ont pris la parole. Et quand les églises se sont réorganisées en églises bien installées, on a dit... Plus de femmes, on ne leur laisse plus la parole.
Elles disent des choses trop belles, trop intéressantes.
Il y a peut-être des choses comme ça. C'est ça. Et donc c'est un peu violent parce que pour le coup, les femmes avaient pris le pouvoir et on les a fait taire quelques années plus tard. Mais c'est un phénomène qui est vraiment très intéressant. J'invite les auditeurs à se pencher sur ce sujet s'ils en ont envie. Il y a vraiment des choses intéressantes.
Voilà. Donc Isabeau de Vincent, qui est présenté par Marjolaine Chevalier. Alors, toujours sur le secteur de Montpellier, vous faites part d'une association, l'AMILFAC, l'Association des Amis de la Faculté de Théologie Protestante de Montpellier, une association qui a été créée en 2012. Alors, on a l'impression comme ça qu'elle renaît, cette association. Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est juste, là encore, l'opportunité de rencontre
Alors, c'est une très, très bonne question. C'est l'opportunité d'une rencontre. On m'a contacté pour publier un article sur l'association. En gros, c'est un appel à cotisation. Et puis, il y a une soirée qui est organisée à l'Institut protestant de théologie de Montpellier. Donc, voilà, c'était intéressant. Mais en effet, il y a peut-être un peu ça. J'en avais pas entendu parler. Alors, ça ne fait que 2 ans que je suis là. Donc, bon, peut-être qu'il n'y a plus l'occasion de communiquer. Mais il y a quelque chose qui semble être relancé au niveau des amis de la faculté de théologie. C'est en lien avec la paroisse de Montpellier. Ils avaient décidé de créer cette association parce que la faculté est à Montpellier, la paroisse aussi, donc voilà, ils ont essayé de créer quelque chose. Donc voilà, il y a quelque chose qui renaît, il y a des événements qui vont se dérouler, dont une conférence dîner le samedi 5 mai à 18h30 à la faculté protestante de théologie.
Bon, voilà.
Voilà, donc,
écoutez, nous allons certainement en reparler dans nos agendas respectifs.
Oui, je pense.
Alors, Nicolas, aurais-je oublié un article important de votre journal, quelque chose auquel vous tenez et auquel je serais passé à côté? Ça m'arrive, hein? Ça m'arrive. Vous êtes à quelle page, là?
C'est la page 32. Page 32, 33.
Double page 32, mais bien sûr, nouvelle régionale. Les jeunes.
Voilà, exactement.
Et oui, vous avez raison. C'est pas oublier nos jeunes.
C'est une première pour le CEP. C'est une expérience qu'on a tentée, qui a bien fonctionné. Je suis parti 3 jours encadrer un mini-camp à l'Espérou pour l'ensemble Gardon-Vidourle. Et on a décidé de travailler avec les jeunes et de leur donner 2 pages dans le journal et de travailler avec eux, les illustrations, les textes, voilà, qu'est-ce qu'on pouvait faire autour du thème des rameaux, puisque le but était que cette préparation serve aussi au culte de l'ensemble au rameau, le jour des rameaux. Pardon.
Vous préparez votre relais?
Presque. Je cherche mes successeurs.
C'est ça. Alors, des acrostiches, des histoires bibliques, des témoignages, des dessins,
des photos. Et des paroles vraies. Enfin, c'est assez intéressant. Moi, j'étais étonné parce que le premier jour, je leur présente le sujet. Tout le monde a été apparemment emballé et plutôt fier de savoir qu'ils allaient être publiés dans le journal, que leurs dessins allaient paraître. Donc, tous très contents. Et c'est une belle expérience. Et j'invite les ensembles, les paroisses, les consistoires à contacter le CEP parce qu'on peut vraiment faire quelque chose. Et on dit les jeunes ne sont pas là, ils ne font rien. Il y avait quand même presque une trentaine de jeunes qui étaient présents. Et tous, voilà, pour un ensemble, c'est quand même beaucoup. Ils ont joué le jeu.
Ouais.
Et nous aussi, puisqu'on a décidé d'envoyer à tous les enfants le journal pour qu'ils aient un souvenir de ce mini-camp et du travail qu'ils ont réalisé.
Voilà, un travail d'écriture.
Oui, un travail d'écriture, de dessin.
Réflexion théologique.
Aussi, voilà, autour du thème des rameaux, avec des petits décalages. C'est intéressant à découvrir. On a mis aussi des interprétations parce que parfois il faut décoder le message.
C'est ça. Autre chose, Nicolas?
Oui, vous avez en page 11... le témoignage du pasteur Ingrid Pratt qui est parti faire une formation et qui s'appelle le bibliologue, et c'est une forme de culte autrement qu'elle est en train de travailler et de mettre en place. On travaille le texte biblique différemment. On se met en rond, on lit un texte biblique, elle lit le texte d'ailleurs, et elle vient l'interrompre en disant maintenant, vous vous mettez à la place de tel personnage. Donc, elle lance le témoignage, elle vient se placer à côté de vous quand vous parlez. Et elle répète ce que vous venez de dire. Et vraiment, on a l'impression de replonger dans le texte. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les textes bibliques, on connaît les personnages principaux. Mais parfois, au détour du texte, il y a une corde, une cruche, un crochet, un bout de fer, une pierre qui apparaissent. Et elle nous demande d'être la pierre et de témoigner de ce qu'elle voit la pierre dans ce message. C'est extrêmement intéressant comme démarche. Et ça permet une plongée dans le texte biblique et, qui est vraiment impressionnante. Et je trouve, ce qui est intéressant, c'est qu'on a de temps en temps, à moins de les entendre régulièrement, on ne retient pas toujours les détails des textes bibliques. Et là, ça nous oblige à rentrer dedans et à dire, ça y est, je sais de quoi
ça,
on parle.
Il y a tellement d'éléments qui nous échappent dans une lecture classique.
Et c'est vraiment, il me tarde, elle doit faire des cultes autour de ça. Mm-hmm. Et il y a vraiment quelque chose à faire, c'est passionnant.
Bien, écoutez, merci pour ce beau numéro d'avril 2018, Les aumôneries, écouter, accompagner et aimer comme dossier, mais aussi, nous l'avons vu, de multiples articles qui viennent régulièrement compléter le dossier.
Merci Guylaine pour votre invitation.
Au revoir.
À bientôt.